Le prophète Jésus. Le récit du miracle. Le prophète Jésus était le dernier des messagers avant le prophète Muhammad, qu'Allah le bénisse, et lui accorde la paix. Son histoire révèle la volonté conquérante d'Allah, son pouvoir absolu, et sa belle sagesse. Tout sur Jésus est un miracle. Sa naissance fut un tel miracle qu'il est difficile d'y croire. Les gens qui rejettent Allah ne croient qu'en ce qu'ils voient de leurs propres yeux. Ils sont ignorants de la puissance d'Allah qui contrôle toutes choses et de sa volonté à laquelle on ne peut s'opposer. Il lui suffit, lorsqu'il veut une chose, de dire « Sois » et celle-ci s'accomplit. 36. 82. Cependant, la naissance de Jésus est naturellement acceptée par ceux qui croient en Allah comme étant un Dieu puissant et transformateur, comme étant un créateur et un formateur. C'est lui le vrai Dieu, le Créateur qui tire toute chose du néant en lui donnant la forme qu'il veut. Il possède les noms les plus sublimes. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre célèbre sa gloire. Il est le Tout-Puissant, l'infiniment sage. 59. 24. Ces personnes croient qu'Adam a été créé à partir d'eau et d'argile sans géniteur. Croire à une naissance par une mère seule, sans père, est plus aisé que de croire à une naissance sans mère ni père. C'est pourquoi Allah a dit: la création de Jésus est, pour Allah, tout aussi miraculeuse que celle d'Adam qu'il fit de poussière, et auquel il dit « Sois, si bien qu'il fût homme. » 3. 59. Tout à propos de Jésus était extraordinaire. Tout ce qui concerne le prophète Jésus est extraordinaire. Il est né à un moment où la Grèce antique avait fait ses plus grandes avancées en sciences rationnelles, mais aussi en mathématiques et en médecine. Une conception mondaine des choses. Les Israélites, bien qu'ayant été une communauté, dans laquelle ont vécu de nombreux prophètes, ont rejeté l'Esprit de Dieu et tout ce qui lui était lié. Ils s'étaient habitués à trouver une explication mondaine pour tout. Les miracles que le Tout-Puissant a accordé au prophète Jésus ont été conçus pour remédier à cette vision étroite du monde. Cela fut nécessaire en ce temps. En tant que communauté, les Israélites ne se fiaient qu'uniquement en ce dont ils étaient eux-mêmes témoins. Ils avaient, pour beaucoup, une grande vénération pour l'ethnie et le lignage, et un amour des richesses et des biens. Ils étaient complètement absorbés dans cette vie d'ici-bas. Au fil du temps, leur cœur s'est endurci, et leur nature a changé. Ils n'étaient plus aimables avec les faibles, ni doux envers les pauvres. Beaucoup ont traité les gens qui n'avaient pas de sang israélite dans leurs veines, comme étant des êtres sans valeur. Beaucoup sont devenus humbles envers les forts et les riches, et tyranniques envers les pauvres et les faibles. Beaucoup étaient durs quand ils avaient du pouvoir, et complaisants lorsqu'ils n'en avaient pas. L'hypocrisie, la servilité, la ruse, ainsi que le complot et le secret, ont été engendrés par une vie d'abaissement et de servitude qu'ils ont endurée en Syrie et en Palestine sous la longue période de domination romaine. Mépris et désobéissance. De plus, le mépris des Israélites pour les prophètes avait augmenté. De même, dans leur communauté, avait pris place le meurtre, les relations usuraires, les plaisanteries sur les enseignements religieux et le manque de compassion. Le cœur de beaucoup d'entre eux a été dépouillé de l'amour sincère d'Allah. Ils ont oublié la charité, l'égalité, la piété et la générosité. Autrefois, ils avaient cru en la prophétie et au message, il y avait eu de nombreux prophètes parmi eux, et leurs livres étaient remplis d'informations à leur sujet. Mais finalement, ils n'ont cru qu'en ce qui convenait à leurs objectifs. Ils se sont opposés à ceux qui les critiquaient, ceux qui les appelaient à rendre des comptes, et les appelaient à la vraie religion. Ils ont même fini par leur déclarer la guerre. La bénédiction d'Allah accordée aux Israélites. Il fut une époque où la nation israélite se distinguait des autres nations par sa croyance en l'unicité divine. C'est la raison pour laquelle ce peuple a été préféré aux autres peuples en ce temps-là. Le Tout-Puissant dit dans le sens: ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma grâce, dont je vous ai comblé. Je vous ai privilégié par rapport aux autres peuples du monde. 2. 47. Ingratitude. En se mélangeant aux adorateurs d'idoles, progressivement, les Israélites sous influence n'ont pas réussi à honorer les enseignements des prophètes. Ils ont commencé à adopter des croyances parasites et à ignorer leurs propres coutumes. Certains avaient adoré le veau après leur évasion d'Égypte, et certains ont développé une grande vénération pour Ezra, affirmant même qu'il était d'une nature autre que humaine. Leur insolence les a amenés à attribuer l'adoration des idoles, la magie, l'incrédulité et les actes répugnants à certains prophètes. Ils ne craignaient plus le Tout-Puissant. Fierté et vanité. Malgré tous ces défauts, les Israélites étaient très fiers de leur lignée, et ont donné beaucoup d'importance à leurs espoirs et à leurs rêves. Ils ont dit : « Nous sommes les enfants d'Allah, et ses bien-aimés. » 5. 18. Ils ont également dit : « Le feu ne nous touchera que pendant un nombre limité de jours. » 2. 80. La naissance du Messie remet en question l'essence ordinaire. La naissance, la vie et le message du Messie ont défié la perception, la coutume et le droit des Israélites. Il a également défié les idéaux les plus élevés en lesquels son peuple croyait, et les objectifs pour lesquels ils ont concouru et combattu. Le Messie est né de la manière la plus inhabituelle. Il a parlé aux gens, alors qu'il était encore dans le berceau, et a grandi sous la garde d'une mère pauvre et chaste. Il vivait dans un climat de calomnie et d'hostilité, loin des signes extérieurs du prestige et de la richesse. Il s'est assis avec les pauvres, a mangé avec eux, et était doux à leur égard. Il a réconforté le faible et l'étranger. Il traitait également le riche et le pauvre, le juge et le jugé, il ne faisait pas de distinction de classe sociale. Les miracles du Messie. Le Tout-Puissant a accordé au Messie la prophétie et la révélation. Il lui a donné l'Évangile, l'a soutenu avec l'Esprit Saint, et de merveilleux miracles. Le Tout-Miséricordieux lui a accordé le don de guérir des malades que les médecins n'avaient pas réussi à guérir. Il a guéri les aveugles de naissance, mais aussi les lépreux, et a ramené les morts à la vie, avec la permission d'Allah. Il a façonné l'argile en quelque chose de semblable à la forme d'un oiseau, puis a soufflé dedans, et cette forme s'est transformée en oiseau vivant avec la permission d'Allah. Il savait dire aux gens ce qu'ils avaient mangé et ce qu'ils avaient emmagasiné dans leur maison. Tout cela a restauré la confiance et la croyance au miracle des messagers, et aussi dans les mentions de la puissance divine contenue dans la Torah. Mais ceux qui rejetaient la réalité de la puissance divine et la force de la volonté du Seigneur se sont interposés. Ils ont déclaré que rien de nouveau, et autre que la connaissance du monde, qu'ils possédaient déjà ne pouvait être ajouté. L'appel de Jésus à la vraie religion et le rejet de sa personne par les Israélites. L'enseignement de Jésus s'est avéré insupportable pour des Israélites. Ils lui sont devenus hostiles. Ils l'ont blâmé et l'ont raillé avec des soupçons et des calomnies. Ils ont utilisé des malédictions et des mots grossiers contre lui. Ils ont dénigré sa mère, Marie, la Vierge. Ils l'ont attaqué, ont soulevé la populace contre lui et, finalement, ont ridiculisé ses enseignements. L'histoire de Jésus dans le Coran. Alors les Israélites hostiles cherchèrent à tuer Jésus et à se débarrasser de lui, mais le Tout-Puissant le protégea et retourna leur complot contre eux. Il l'a élevé à lui et l'a honoré. Écoutez l'histoire dans le Coran dans une traduction rapprochée. Les anges dirent : Marie, Allah t'annonce la naissance d'un fils né d'un verbe émanant de lui, qui aura pour nom le Messie, Jésus fils de Marie, honoré ici-bas, et dans l'au-delà, et du nombre des plus proches élus du Seigneur. Il parlera aux hommes dès le berceau, prêchera la bonne parole à l'âge mûr, et sera du nombre des croyants pleins de vertu. Marie s'étonna. « Comment, Seigneur, pourrais-je avoir un enfant, alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Il répondit. « Il en sera ainsi. Allah crée ce qu'il veut. Il lui suffit, lorsqu'il décrète une chose, de dire « soit », et celle-ci s'accomplit. Il lui enseignera l'Écriture, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Il sera envoyé au fils d'Israël auquel il dira « Je suis venu à vous, accompagné de signes de votre Seigneur. Ainsi je forme devant vous, à partir d'argile, un corps d'oiseau dans lequel je souffle si bien que, par la volonté d'Allah, il devient un véritable oiseau. Je guéris également l'aveugle-né et le lépreux, et, par la volonté d'Allah, je ressuscite les morts. Je vous informe aussi de la nourriture que vous consommez et de celle que vous conservez dans vos demeures. Voilà assurément un signe pour vous, si vous êtes réellement croyant. Je viens, accompagné de ces signes de votre Seigneur, confirmer les enseignements révélés avant moi dans la Torah, tout en levant une partie des interdits qui vous étaient imposés. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Allah, en vérité, est mon Seigneur et le vôtre, auquel vous devez un culte exclusif et sincère. Telle est la voie du salut. Constatant que les fils d'Israël persistaient dans leur impiété, Jésus dit : Qui me soutiendra dans la propagation de la religion d'Allah ? Les apôtres répondirent : Nous soutiendrons la religion d'Allah en qui nous croyons. Sois témoin que nous lui sommes entièrement soumis. Seigneur, nous avons foi en ta révélation et suivons la voie de ton messager. Place-nous donc au nombre de ceux qui témoignent de la vérité. Les fils d'Israël ont tramé un complot contre Jésus qu'Allah a déjoué. Nul, mieux qu'Allah, n'est en mesure de déjouer les complots. Allah dit : Jésus, je vais te reprendre à la terre, t'élever auprès de moi, te délivrer de ceux qui t'ont renié et placé, jusqu'au jour de la résurrection, les mécréants sous la domination de ceux qui te sont fidèles. C'est vers moi ensuite que se fera votre retour, je trancherai alors vos différends. À ceux qui auront rejeté la foi, j'infligerai ici-bas, et dans l'au-delà un terrible châtiment, dont nul ne pourra les sauver. Quant à ceux qui auront cru et accompli le bien, je les récompenserai pleinement. Allah n'aime pas les impies. Ce que nous te récitons de la sage révélation fait partie des preuves de l'authenticité de ta mission. La création de Jésus est, pour Allah, tout aussi miraculeuse que celle d'Adam qu'il fit de poussière, et auquel il dit « Sois, si bien qu'il fût homme ». Ceci est assurément la vérité émanant de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui en doutent. 3. De 45 à 60. La vie et l'appel de Jésus dans le Coran. Écoutez la description du Tout Miséricordieux au sujet de la vie et de l'appel de Jésus dans son sens rapproché. Je suis le serviteur d'Allah, qui m'a confié l'Écriture, et a fait de moi un prophète. Il a fait de moi une bénédiction pour les hommes où que je sois, et m'a prescrit la prière et la charité tant que je serai en vie. Il a fait de moi un fidèle envers sa mère, obéissant envers son Seigneur, humble à l'égard des hommes. Que la paix soit avec moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour où je serai rendu à la vie. 19. De 30 à 33. Une dissonance éternelle. Ce qui était arrivé à d'autres prophètes avant lui est également arrivé à Jésus. Les gouvernants et les dirigeants se sont tenus à l'écart, les riches et les puissants l'ont ignoré. Ils pensaient que c'était une transgression que de croire en lui et en ses apôtres. Ils ne souhaitaient en aucun cas abandonner leur hégémonie, leur position, leurs privilèges et leurs précieuses distinctions. Les paroles du Tout-Puissant sont vraies, lorsqu'il dit dans un sens rapproché : Nous n'avons envoyé nul messager avertir une cité sans que ses habitants les plus puissants n'aient affirmé : Nous ne croyons pas en votre message. Ils disent : Nous avons davantage de richesses et d'enfants. Nous ne saurions être châtiés. 34. De 34 à 35. La croyance des gens du commun et des pauvres. Jésus était désespéré de l'obstination et de l'incrédulité des classes supérieures de la société. Ils avaient rejeté les signes clairs et les merveilleux miracles qu'il avait apportés même s'ils savaient qu'ils étaient vrais. Ils l'ont rabaissé parce qu'il n'avait pas de pouvoir et de puissance. Alors Jésus s'est consacré aux gens du commun et des pauvres, dont les cœurs s'étaient inclinés, dont le fait de vivre par le labeur de leurs mains et la sueur de leur front poussait leur âme à se purifier. Ils ne se sont pas vantés de leur lignée, ni ne sont devenus insolents à cause de leur rang et de leur position dans la société. Un groupe d'entre eux composé de pêcheurs, d'artisans et d'ouvriers croyait. Nous soutiendrons la religion d'Allah. Ces gens croyaient au Messie, ainsi ils se sont rassemblés autour de lui, et ont placé leurs mains dans sa main tout en disant : Nous soutiendrons la religion d'Allah. Le Tout-Puissant dit : Constatant que les fils d'Israël persistaient dans leur impiété, Jésus dit : Qui me soutiendra dans la propagation de la religion d'Allah ? Les apôtres répondirent : Nous soutiendrons la religion d'Allah en qui nous croyons. Sois témoin que nous lui sommes entièrement soumis. Seigneur, nous avons foi en ta révélation et suivons la voie de ton messager. Place-nous donc au nombre de ceux qui témoignent de la vérité. 3. De 52 à 53. Pérégrination et appel. Jésus a passé la majeure partie de son temps à pérégriner d'un endroit à l'autre en enseignant l'unicité d'Allah. Il a appelé les Israélites à Allah, et il a guidé ceux parmi eux qui étaient égarés vers leur Seigneur et Maître. Dans ses pérégrinations, il a rencontré à la fois la facilité et la difficulté. Il a enduré tout cela avec patience, et l'a accepté en témoignant sa gratitude envers le Tout-Puissant. Il a enduré la faim, et se contentait du juste nécessaire de nourriture, pour maintenir son corps et son âme ensemble. Les apôtres demandent une table servie provenant du ciel. Les disciples n'avaient pas la même patience que Jésus, ils n'avaient pas sa constance, sa discipline et sa maîtrise de soi. Ils ont été affligés par les difficultés continues et voulaient que Jésus demande au Tout-Puissant d'envoyer une table servie du ciel pour eux, dont ils pourraient manger, assouvir totalement leur faim et obtenir du réconfort après leurs nombreuses difficultés. Des manières inappropriées. Mais les disciples ne se sont pas comportés correctement lorsqu'ils ont fait leur demande. Ils ont dit « Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il faire descendre sur nous un repas du ciel ?» 5. 112. Jésus n'a pas aimé leur demande, ou plutôt la manière dont ils lui ont présenté leur demande. Les prophètes demandent à leur communauté de croire en ceux qui échappent à leur sens. Les miracles ne sont pas des jeux pour amuser les enfants et détourner les crédules. Ce sont des signes d'Allah qu'il manifeste aux mains de ses prophètes quand il le veut. Par ces miracles, la preuve du Tout-Puissant est établie contre ses serviteurs. Dès lors que des miracles apparaissent à un peuple et sont rejetés par celui-ci, alors ils ne bénéficient d'aucun ajournement. Avertissement d'un dur châtiment. Jésus a eu peur pour les apôtres en raison de leur demande de descendre d'une table servie provenant du ciel. Il les a mis en garde contre un châtiment redoutable. Il leur a interdit de mettre Allah à l'épreuve. Il est bien trop haut et majestueux pour cela. Insistance et requête sérieuse. Mais les disciples ont réitéré leur demande. Ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas l'intention de tester le Tout-Puissant, ils voulaient plutôt réconforter leur cœur. Ils avaient l'intention que ce soit un rappel aux générations futures, une histoire à raconter et à rapporter pour les années à venir. Ce serait une preuve de la vérité de la religion et de la situation des premiers croyants et des disciples véridiques. Le Coran raconte cette histoire. Le Coran nous raconte ainsi cette histoire, en voici une traduction rapprochée. Les apôtres dirent un jour, « Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il faire descendre sur nous un repas du ciel ?» Il répondit, « Craignez Allah, si vous croyez réellement en lui. » Ils reprirent, « Nous voulons en manger et que nos cœurs se rassurent à sa vue. Nous pourrons ainsi avoir la certitude que tu nous as bien dit la vérité et témoigner de ce miracle. » Jésus, fils de Marie, adressa cette prière. « Ô Allah, Seigneur, fais descendre sur nous du ciel un repas qui sera une fête pour nous et pour ceux qui viendront après nous et un signe venant de toi. Veuille nous pourvoir de tes faveurs, toi le plus généreux des pourvoyeurs. » Allah répondit, « Je le ferai descendre sur vous. Mais quiconque, parmi vous, reniera ensuite la foi, je le châtirai comme je ne châtirai nulle autre créature. » 5. 212 à 115. Des Israélites essaient de se débarrasser du prophète Jésus. La patience des Israélites hostiles s'est épuisée à mesure que leur inimitié et leur obstination augmentaient. Ils voulaient se débarrasser de Jésus. Ils portèrent son cas devant le gouverneur romain en disant « C'est un contestataire, un novateur qui a renoncé à notre religion. Il séduit nos jeunes hommes pour qu'ils soient induits en erreur. Il nous divise, traite nos rêves de fous et nous embarrasse. » Stratagème d'influence sur les politiciens. Les Israélites hostiles disaient de Jésus, « Il est un danger pour l'État. Il ne se soumet pas au gouvernement et n'obéit pas à la loi. Il ne respecte pas les grands, ni ne vénère les anciens. C'est un novateur. Si son mal n'est pas contenu, nous subirons une crise. N'ignorez pas une étincelle, si minime soit-elle. » Tromperie et ruse. Les paroles des Israélites hostiles à Jésus étaient pleines de tromperies et de ruses. Ils savaient que la mention des activités de Jésus n'influencerait pas les gouverneurs ni ne les provoquerait, car leur politique était de ne pas se mêler des affaires religieuses des Israélites. C'est pourquoi ces Israélites ont accusé Jésus d'être impliqué dans la politique. Une problématique. Il était difficile pour les gouverneurs romains adorateurs d'idoles de se prononcer sur la réalité de cette affaire ou de cerner les motifs des Israélites hostiles au Messie et la raison de leur inimitié envers lui. Ils ont été distraits de cette problématique par des questions administratives. Mais les Israélites hostiles étaient très insistants et revenaient sans cesse vers eux. Les gouverneurs romains voulurent en finir avec cette affaire devenue la préoccupation majeure de la ville. Le prophète Jésus devant le tribunal. C'était un vendredi après-midi, avant la nuit du sabbat. Les Israélites ne faisaient rien le jour du sabbat. C'était un jour de repos. Les personnes hostiles étaient très impatientes que le jugement des gouverneurs contre Jésus soit rendu avant le coucher du soleil du vendredi. Elles pourraient alors s'endormir l'esprit tranquille. Elles pourraient se détendre le matin, débarrassées de leurs tourments. Le juge s'ennuyait de cette affaire. Il n'y avait là aucun intérêt, aucun avantage pour les Romains. Les Israélites se rassemblèrent pour entendre la sentence. Le temps restant avant la fin du jour était court, le soleil était sur le point de se coucher. Le juge a rendu un jugement contre Jésus, le condamnant à être mis à mort par crucifixion. La loi de l'époque. La loi de l'époque exigeait que l'on fasse porter au condamné à mort la croix sur laquelle il devait être crucifié. Le lieu d'exécution était éloigné. Une foule s'est rassemblée, les gens se poussant les uns contre les autres. Les soldats n'avaient aucun intérêt pour cette affaire. Les Israélites se ressemblaient tous pour eux, ils ne pouvaient pas les distinguer les uns des autres. C'était le soir et les ombres s'étaient allongées. Certains des Israélites hostiles et des imbéciles zélés parmi les jeunes gens se moquaient du Messie. Il le poussait, le maudissait, l'insultait, voulant le blesser et l'humilier. Jésus endure la souffrance. Le Messie était là, épuisé par l'effort et le temps qu'il a dû passer devant le tribunal et les blessures qu'il a dû endurer. La croix qu'il portait était lourde. Il ne pouvait avancer que lentement. Une gestion divine. Alors le soldat en charge du cortège ordonna à un jeune Israélite hostile, qui était le plus acharné, le plus insensé, le plus désireux de blesser et d'attaquer le Messie, de porter la croix à sa place. Le soldat voulait que toute l'affaire soit résolue rapidement pour être libéré de cette lourde responsabilité. Il était d'une grande ressemblance physique avec lui. Lorsque la procession atteignit le lieu d'exécution, le garde du lieu s'avança pour prendre en charge le condamné auprès du garde de la ville. Ils virent le jeune homme portant la croix. Dans la confusion, alors que les jeunes poussaient et criaient, ils se saisirent de l'homme portant la croix, pensant que c'était lui le condamné à être crucifié. Il hurla et s'époumonna, déclarant qu'il était innocent et n'avait rien à voir avec la condamnation. Il déclara qu'on lui avait fait porter la croix de force. Les soldats romains ne prirent pas en compte ses déclarations. Ils ne comprirent pas son dialecte. Exécution de la peine. Chaque criminel prétend qu'il est innocent de son crime. Chaque criminel hurle et crie. Les gardes saisirent le jeune Israélite et exécutèrent la sentence. Les Israélites se tenèrent à distance. Puis la nuit tomba et tout sombra dans l'obscurité. Ils pensèrent tous que l'homme crucifié était le Messie. Jésus a été élevé au ciel. Quant au prophète Jésus, fils de Marie, Allah l'exalté l'a sauvé des complots des Israélites hostiles, et l'a élevé jusqu'à lui, l'a honoré, et l'a purifié de ceux qui l'avaient rejeté. Le Coran raconte cette histoire. Voici les paroles du Tout-Puissant au sujet des Israélites hostiles envers la personne du Messie, dans le sens rapproché. Nous les avons aussi maudits, parce qu'ils ont rejeté la foi, inventé contre Marie une infâme calomnie, et prétendu avoir tué le Messie, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais furent seulement le jouet d'une illusion. Tous ceux qui se sont opposés à ce sujet sont en réalité dans l'incertitude la plus totale, formulant de simples suppositions. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Allah est tout-puissant et infiniment sage. 4. De 156 à 158. Il est dans les cieux comme Allah l'exalté, qui a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut, l'a voulu. Sa naissance était une merveille, tout comme sa vie et tout ce qui l'entourait. Du début à la fin, il fut une merveille, un miracle pour confirmer le pouvoir divin absolu. La descente de Jésus avant le jour de la résurrection. Jésus descendra du ciel, quand le Tout-Puissant le voudra. Il établira la preuve contre ceux, parmi les Juifs et les chrétiens qui l'ont abandonné, ou ont commis des excès à son égard. Il assistera la vérité, et vaincra les gens du mensonge, tout comme notre prophète, qu'Allah le bénisse, et lui accorde la paix, nous a informé. Il existe de nombreuses narrations et hadiths ayant une chaîne de transmission solide à ce sujet. Les musulmans de tous les temps y croient. Allah le sublime a dit cette vérité dans un sens rapproché. Il n'est personne, parmi les gens du livre, qui ne croira en Jésus avant sa mort. Et le jour de la résurrection, il témoignera contre eux. 4. 159. Sa bonne nouvelle concernant l'envoi du prophète Muhammad, qu'Allah le bénisse, et lui accorde la paix. Jésus n'a pas terminé sa tâche prophétique en raison de l'intense hostilité et du complot d'une partie des Israélites contre lui, ainsi que de ses limites humaines et de son manque de soutien. Il prit congé du peuple et obéit à l'ordre de son Seigneur. Il leur a annoncé la bonne nouvelle d'un messager qui viendrait après lui et dont le travail serait d'achever ce qu'il avait commencé. Ce message se répandrait dans le monde entier. Par lui, la bénédiction du Tout Miséricordieux sur ses serviteurs serait complétée et la preuve contre sa création établie. Jésus, fils de Marie, dit un jour, fils d'Israël. Je suis le messager qu'Allah vous a envoyé, confirmant les enseignements de la Torah révélés avant moi, et annonçant l'avènement d'un messager qui viendra après moi dont le nom sera Ahmad. 61. 6. De l'unicité pure à une obscure croyance. L'une des choses étranges qui attriste le cœur est le fait que la déclaration du Messie sur l'unicité d'Allah, son appel à une religion claire, à adorer Allah seul, tout en cherchant refuge en lui, et en ayant un amour pur pour lui, ont été changés en une croyance obscure et une philosophie compliquée. Ses partisans ont déclaré « Le Messie est le fils d'Allah ». Ils ont dit « Allah a pris un fils ». Ils ont encore dit « Allah est le Messie, le fils de Marie ». Ils ont essayé de faire de l'unicité de Dieu éternel, qui n'engendre pas, et n'a pas été engendré, une famille composée de trois personnes, toutes divines. Ils dirent « Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Ils croient en Marie, la mère du Messie, et l'élèvent au niveau de la sanctification et de l'adoration. Ils disent la mère de Dieu, et les statues, ainsi que les images d'elle sont courantes dans les églises. Ils s'inclinent devant ces images, s'y réfugient, leur font des supplications, des vœux et des actes de dévotion. Allah l'exalté a rejeté une telle croyance et un tel culte. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager, à l'image de ceux qui l'ont précédé, et sa mère était une femme sincère dans sa foi. Tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme ils se détournent des preuves, que pourtant nous leur exposons clairement. Dis, adorez-vous, en dehors d'Allah, des créatures qui n'ont aucun pouvoir, ne pouvant ni vous nuire, ni vous être utiles, alors que c'est Allah qui entend tout et sait tout. 5. De 75 à 76. Jésus appelle à l'adoration du Dieu unique. Comme les autres prophètes, Jésus appela à l'adoration du Dieu unique. Ses paroles sont venues dans l'Évangile. Il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, 10. On peut encore trouver « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Luc 4, 8. Le Tout-Puissant dit dans une traduction rapprochée « Il n'appartient aucunement à un être humain auquel Allah a révélé les Écritures et la sagesse, et qu'il a élevé au rang de prophète, de demander aux hommes de l'adorer en dehors d'Allah. Il doit au contraire leur dire « Soyez des érudits exclusivement voués au Seigneur, puisque vous étudiez et enseignez les Écritures. Il ne lui appartient pas non plus de vous appeler à élever les anges et les prophètes au rang de divinité. » vous appellerait-il à renier la foi, alors que vous vous êtes soumis au Seigneur ? 3, de 79 à 80. Le Coran rapporte avec clarté l'exhortation de Jésus. Le Coran comprend et confirme ce qu'il a précédé et rapporte la déclaration claire de Jésus sur l'unicité pure et son appel dans un langage clair et simple. Ont assurément rejeté la foi ceux qui affirment qu'Allah s'est incarné dans la personne du Messie, fils de Marie. Or, le Messie lui-même a dit : Fils d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Quiconque associe d'autres divinités à Allah se verra privé du paradis et n'aura d'autre refuge que l'enfer. Nul ne saurait sauver les impies. 5. 72. La place de l'unicité dans son exhortation. Jésus a dit avec une belle éloquence, savourée par tous ceux qui reconnaissent la nécessité de l'unicité d'Allah et de la vie des prophètes et des messagers. Le Messie ne trouvera jamais indigne d'être le serviteur d'Allah, pas plus que les anges rapprochés. Quant à ceux qui, par orgueil, trouvent indigne d'adorer Allah, il les rassemblera tous vers lui. À ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, il accordera leur entière récompense et leur ajoutera même de ses faveurs. Quant à ceux qui auront refusé, par orgueil, de se soumettre à lui, il les châtiera douloureusement, sans qu'ils puissent trouver contre son châtiment ni soutien, ni protecteur. 4. De 172 à 173. Une rencontre bouleversante lors du rassemblement du jour de la résurrection. Le Coran, avec son éloquence inimitable, dépeint une réunion bouleversante le jour de la résurrection. Le prophète Jésus se déclarera innocent de ce que les gens ont dit à son sujet et de la façon dont ils l'ont traité. Il clarifiera son appel avec force et vérité et prononcera la culpabilité de ceux de sa communauté qui ont dépassé les limites. Eux seuls sont responsables de ce péché. Écoutez cette traduction du Coran et voyez à quel point la situation sera imposante et majestueuse, à quel point la scène sera éclatante. Allah dira : Jésus, fils de Marie. Est-ce toi qui as demandé aux hommes de t'élever, toi et ta mère, au rang de divinité en dehors d'Allah ? Il répondra : Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de m'attribuer ce rang sans droit. L'aurais-je d'ailleurs fait que tu le saurais ? Tu connais, en effet, les secrets de mon âme, tandis que tes secrets me sont inconnus. Toi seul connais toutes choses, apparentes ou cachées. Je me suis contenté de leur transmettre le message que tu m'as confié, leur disant : Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Je fus témoin de leur comportement tant que je vécus parmi eux. Puis, lorsque tu repris mon âme, c'est toi qui fus l'observateur vigilant de leurs agissements, toi qui es témoin de toutes choses. Si tu décides de les châtier, ils sont, en tant que serviteurs, soumis à ta volonté, et si tu décides de leur pardonner, tu le feras en vertu de ta toute-puissance et de ton infinie sagesse. Allah dira : Voici venu le jour où les croyants sincères recueilleront les fruits de leur foi. Ils seront admis dans des jardins traversés de rivières, où ils demeureront à jamais, agréés par Allah, et entièrement satisfaits de lui. Voilà le bonheur suprême. Allah règne en maître absolu sur les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et il a pouvoir sur toutes choses. 5. De 116 à 120. D'un dogme obscur à une idolâtrie dévoilée. C'est de leur propre initiative que les missionnaires chrétiens sont venus en Europe. Le Messie n'a jamais commandé cela. Il a clairement déclaré que sa mission était pour les brebis égarées, celle-ci désignant les hommes et les femmes égarés parmi les Israélites. En Europe, à cette époque, le culte des idoles était très répandu. Les Grecs étaient des adorateurs d'idoles. Ils ont fait des images de divinités sous diverses formes, ont sculpté des statues de ces images et ont construit pour elles des temples et des sanctuaires. Il y avait un dieu pour les moyens de subsistance, un dieu pour la miséricorde, encore un dieu pour le pouvoir, et ainsi de suite. Les Romains étaient profondément enracinés dans le culte des idoles et s'accrochaient à la superstition. L'idolâtrie coulait à travers eux comme du sang. Lorsque le christianisme les a atteints et que Constantin Ier est devenu chrétien, embrassant et adoptant la nouvelle foi, dans les années 300 de notre ère, il en a fait la religion officielle de l'État. Ensuite, le christianisme commença progressivement à adopter nombre des croyances idolâtres que l'on trouvait dans les coutumes romaines et la philosophie grecque, et à perdre sa pureté prophétique, sa simplicité orientale et son zèle unitaire. Des sournois y pénétrèrent Ils greffèrent leurs anciennes croyances et leurs mœurs idolâtres. Une nouvelle religion s'est développée, dans laquelle le christianisme et le culte des idoles se sont mêlés. Ainsi, la première avancée du christianisme s'est faite sur une voie autre que la voie suivie par le Messie, et celle à laquelle il a appelé. C'était comme un voyageur suivant un chemin déviant du bon, intentionnellement ou non, dans l'obscurité de la nuit. Au fil du temps, il poursuit son voyage sur un chemin complètement différent du chemin d'origine. L'histoire précise n'est connue que de ceux qui étudient l'histoire de cette religion. Allah a décrit les chrétiens comme s'étant, par ignorance, détournés du droit chemin, alors qu'il a décrit les juifs, comme ayant attiré sa colère. Il dit sur la langue des musulmans, « Guide-nous dans le droit chemin, chemin de ceux que tu as comblés de tes grâces, non celui des réprouvés, ni celui des égarés. » 1. De 6 à 7. Et pour finir, à Allah appartient le commandement, au début et à la fin, 30, 4.